BFM. Les grands débats du vendredi. Vincent Giray.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure des grands débats de BFM. Vous en avez un peu marre peut-être d'entendre gémir sur l'état de la France, évoquer sans cesse le déclin de notre beau pays ou disserter sur le blocage de notre société. Eh bien, j'ai invité les auteurs de trois ouvrages qui affirment que désormais, tout est possible, que le déclic a eu lieu, que les Français sont cette fois vraiment prêts au changement, peut-être même à la rupture. Nous allons en débattre avec Michel Godet, dont le dernier livre vient de sortir. Michel Godet est démographe, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il signe Le Courage du Bon Sens pour construire l'avenir autrement aux éditions Odile Jacob. Bernard Spitz, ancien conseiller de Michel Rocard, spécialiste des questions de la réforme de l'État, est auteur avec Michel Pébrot de C'est possible, voici comment, lettre ouverte à notre prochain ou prochaine président, présidente de la République aux éditions Robert Laffont, Henri Pijat, directeur de la lettre Ilissos, président du centre de formation des journalistes, ancien patron de l'agence France Presse. Il a coordonné l'ouvrage Dégèle français aux éditions Ilissos et il est venu avec Jacques Darmon, inspecteur des finances, président de banque et qui a collaboré justement à cet ouvrage. Alors, on va commencer avec vous, Henri Pijat. Quand on lit votre livre et notamment l'introduction que vous avez faite, on se dit est-ce qu'il est trop optimiste ou pas? Mais vous nous dites en gros, la prise de conscience a eu lieu. Il y a eu une série de crises qui font que ça y est, les Français ont mûri. Il y a des vérités qui commencent à s'imposer dans le débat public. On parle maintenant plus facilement de la dette. On commence, bref, à comprendre qu'on ne peut pas vivre à crédit. Bref, comme si aujourd'hui la société française avait mûri et que le pays allait bouger, que vous sentiez qu'il allait se passer enfin quelque chose dans les mois, dans les années qui viennent.
En effet, c'est vraiment le sentiment qu'a éprouvé l'équipe qui a préparé ce livre. Je voudrais souligner quand même, parce que ça ne s'entend pas bien à la radio, que le titre s'appelle « Dégèle français, point d'interrogation ». Alors, cela signifie que nous pensons que les Français, au fond, sont prêts à la réforme, mais il faut que quelques conditions soient réalisées. Pourquoi sont-ils prêts à les réformes? Exactement pour les raisons que vous venez de dire, je ne les répète pas, mais il y a une prise de conscience très nette, peut-être par l'exemple étranger. On voit que le monde n'est plus le même et qu'on ne peut plus rester enfermé.
Il y a des vérités d'hier, des vérités d'évidence qui ont longtemps traîné, qui aujourd'hui ne sont remises en cause.
Voilà, je dirais qu'il y a un retour à la réalité, n'est-ce pas, que nous avions perdu de vue. On s'était enfermé dans une sorte de construction théorique, idéologique, même pas toujours idéologique d'ailleurs, un cocon. Bien. Alors ceci étant...
À partir des années 80 ?
Oh, je dirais à partir des années, moi je situe cela à près de 20 ans. Le programme de la France des 20 dernières années, il est défini par M. Mitterrand en 1988, ça s'appelle Ni-Ni. À quelques exceptions près, il y a des petites fenêtres de réforme, mais depuis 20 ans...
L'immobilisme.
C'est l'immobilisme, n'est-ce pas? Et dans les dernières exceptions d'ailleurs, pour honnêteté, je crois qu'il faut souligner les 15 derniers mois. Trop tard, peut-être un peu désordonné, mais il y a eu un petit frémissement politique. Alors, ceci étant, pour répondre à votre question, les Français sont comme tout peuple, notamment dans les conditions que nous vivons. Il y a une majorité active qui est prête à la réforme, qui manifeste de l'impatience, parfois de la colère. Il y a une autre fraction qui est une majorité qui est traversée d'un certain nombre de peurs. Le problème, c'est que parfois, ces deux sentiments se retrouvent vers la même personne, sur la même personne. Donc, d'où la nécessité d'un leadership politique.
Et alors, on va revenir, bien évidemment, parce qu'il y a des conditions à tout ça, pour que ça bouge vraiment. Mais Bernard Spitz, vous avez fait partie de ceux, avec Michel Godet, avec d'autres, qui ont tenté de lancer dans le débat public des idées, et puis surtout une sorte de volonté de retour au réel. Sur la question de l'État, on se souvient de Notre État, avec Roger Fauroux, de livres qui ont fait date. Et là, vous nous dites maintenant, c'est possible, voici comment, sous-entendu, on imagine les réformes. On peut enfin regarder un certain nombre de réalités en face. Mais vous diriez, comme Henri Pijat, qu'aujourd'hui, les choses sont plus mûres qu'il y a encore quelques années, que les Français ont retrouvé un sens des réalités sur la dette, le fonctionnement de l'État, le poids de l'État, etc.
On vient de faire un sondage avec l'Institut de l'entreprise à la suite des propositions qu'on a écrites avec Michel Pébrot dans le livre que vous venez de citer, « C'est possible, voici comment ». Et on a été très frappé de voir que les Français sont effectivement mûrs. Ils sont mûrs sur trois domaines de réforme. Et c'est pour ça que la réforme, comme ça, incantatoire, ça ne veut rien dire. Il faut regarder concrètement de quoi on parle. Il y a trois domaines dans lesquels, aujourd'hui, effectivement, les esprits ont évolué. Le premier domaine, c'est la dette. Les gens ont compris qu'on ne pouvait pas vivre à crédit indéfiniment et que c'était une espèce d'asphyxie du pays qui était en train de se réaliser. Ils sont donc favorables à toutes les mesures de rigueur en matière de gestion de l'argent public. Deuxième série de mesures, c'est la réforme de l'État. Même les fonctionnaires, comme population, savent Et c'est normal d'ailleurs, parce qu'un État qui marche mal, c'est pas bon pour les citoyens, mais c'est pas non plus bon pour ceux qui le servent. Et donc, aujourd'hui, ces réformes, ça comporte notamment l'intéressement au mérite, et surtout une affectation en fonction des besoins.
La rémunération au mérite, c'était un tabou il y a encore quelques années. Hein,
c'est
en train de
oui.
tomber.
C'est en train de tomber, et le troisième série de sujets sur lesquels les Français sont aujourd'hui ouverts, c'est tout ce qui concerne l'enseignement, et notamment l'enseignement supérieur. Ils sont en très grosse majorité, en fait, d'accord pour l'autonomie d'université, mais aussi pour des choses qui avaient soulevé des tempêtes il y a quelques années, comme vous dites, c'est-à-dire, par exemple, l'augmentation des droits d'inscription à l'enseignement supérieur, en contrepartie du fait qu'il y ait des bourses, mais parce que tout le monde constate la clochardisation de notre système d'enseignement supérieur et le fait qu'il laisse sur le carreau par rapport au marché du travail, les gens. Les deux domaines dans lesquels les Français ne sont pas prêts. Et c'est pour ça que la politique, elle doit... Aujourd'hui, on est dans une situation absurde. Les politiques sont derrière les Français en matière, dans un certain nombre de domaines. C'est-à-dire que les Français sont beaucoup plus réformateurs en matière d'enseignement que ne le sont les programmes. Par contre, ils sont très en retrait sur deux sujets où il faut que, justement, la politique soit là pour donner le « là », pour convaincre les gens, de faire de la pédagogie, expliquer les choses. C'est tout ce qui concerne le financement, la protection sociale, les dépenses de santé et pire, les retraites. Et sur les retraites, alors là, c'est effectivement tout à fait le contraire de la maturité, en dépit du fait que les choses ont pourtant... On a fait tout ce qu'on a pu depuis des années.
Sais si on en parle, les retraites, depuis.
Je sais
depuis
si on en parle.
C'est pas Michel Godet qui ne dira le contraire.
Mais sur les retraites, on constate que les gens sont totalement opposés à l'idée de prolonger la durée du travail, et notamment de reculer l'âge de départ.
Ce qu'ont fait
les
principaux partenaires de la France et nos principaux voisins. Quoi,
ce hein. qu'ont fait les partenaires de la France et ce que fera la France. Parce que tous ceux qui ne disent pas qu'on le fera sont des menteurs ou des charlatans. Donc, il s'agit d'expliquer ça à l'opinion plutôt que de la mettre face au fait accompli, parce qu'on voit ce qui se passe. À ce moment-là, on l'a vu en 95. Donc là-dessus, ils sont contre. Et ils sont contre aussi le fait qu'on fasse payer plus les retraités. Donc, et en plus, on a un problème de génération, parce que les retraités sont d'accord pour qu'on retarde l'âge de la retraite. Eux, ils sont plus concernés. Et les jeunes sont d'accord pour faire payer les retraités.
On va y revenir, Bernard Spitz. Michel Godet, vous êtes d'accord l'État, l'école et la dette, là-dessus, les esprits ont bougé et... C'est aussi les sujets que vous évoquez dans votre bouquin.
Hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore au fond de la piscine. Vous savez, le moment où on donne le coup de pied. Parce qu'on a l'impression qu'on peut encore continuer un certain temps à vivre au-dessus de nos moyens. Parce qu'ils n'ont pas bien compris quand même hein, que le modèle social français, c'est l'exception
protection
française.
Protection sociale, retraite, c'est là-dessus que ça
coince. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a un problème de pédagogie économique. Toutes les conférences que je fais, les interventions, il y a des gens qui vous disent les mêmes erreurs. On est les champions du monde de la productivité. Sous-entendu, on peut travailler moins et gagner plus puisqu'on est les meilleurs. Ils ne voient pas que c'est un indicateur d'exclusion. Les économistes ont une responsabilité. Ils n'ont pas expliqué ce que c'était que la productivité apparente du travail. En fait, c'est un résidu non expliqué de la croissance historiquement. Mais on n'a pas expliqué ça aux gens. On appelle ça productivité. On croit que c'est la technologie. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. La seule chose qui me rassure, et là je rejoins Bernard Spitz, c'est que le mur de Berlin, vous savez, avant de s'effondrer, quelques mois avant, les meilleurs spécialistes n'imaginaient pas un effondrement avant plusieurs années, etc. Et dans des scénarios d'effusion de sang. Eh bien, le mur de Berlin de nos rigidités, et j'emploie cette expression à bon escient, parce que moi j'aime bien répéter la phrase de Jacques Lesourne, la France c'est un modèle soviétique réussi, et je le vois tous les jours autour de moi quand on voit la bureaucratie, etc. Finalement les gens s'ennuient, ils demandent qu'une chose, c'est qu'on les libère, et donc il se peut que le mur est tellement miné qu'il tombe d'un seul coup. Et de ce point de vue-là, il y a des évolutions, enfin, je ne suis pas aussi optimiste qu'il est. Il y a deux ans, Chirac a reculé pour une réforme de l'université sur laquelle il y avait un consensus auprès de tous les présidents parce qu'il y avait quelques milliers de jeunes dans la rue. Donc tant que les hommes politiques n'auront pas le courage de faire les réformes et reculeront devant quelques dizaines de milliers de manifestants, eh bien on
alors c'est
pas les
bien
choses.
Évidemment le comment qui va nous occuper dans la suite de cette émission. Jacques Darmon, vous n'êtes pas encore exprimé. Alors vous venez aussi du domaine de l'entreprise. Hein. Vous
oui.
présidez une banque, vous êtes un ancien inspecteur des finances. Mais en même temps, vous pensez plutôt que ça va bouger aussi.
Oui, je pense que ça va bouger, mais je crois que justement l'expérience d'entreprise montre que dans la difficulté à faire des réformes, il y a la résistance des réformés, si je puis dire, mais il y a aussi les erreurs des réformateurs. Oui. C'est-à-dire que pour faire une réforme, il faut faire une bonne réforme. Et que les mauvaises réformes, les réformes mal préparées, les réformes mal appliquées ont un effet dévastateur épouvantable. Elles retardent l'évolution de plusieurs années, voire même de plusieurs dizaines d'années. L'éducation nationale en étant un domaine très évident, c'est-à-dire que des réformes mal préparées dans le domaine de l'éducation nationale ont bloqué l'évolution pendant un très long délai. Et donc, je crois que quand on parle de réforme, d'abord, il ne faut pas en parler en général, mais comme on l'a dit tout à l'heure, en précisant de quelle réforme on parle, mais il faut surtout être très attentif à la méthode de la réforme. On ne peut pas faire une réforme simplement en disant « je réforme ». La méthode avec laquelle on réforme est indispensable. Sinon, on a un peu le sentiment que les réformateurs en France, vous savez, souffrent du syndrome, j'allais dire, de Spinoza, voir le meilleur et faire le pire. On a un peu tendance à savoir ce qu'on veut faire, mais on le fait tellement mal que c'est pire après qu'avant.
C'est-à-dire qu'en fait, on est d'accord sur le diagnostic, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à le faire. Michel Godet.
Non, à propos de la méthode, c'est très important. Il y a deux pièges à éviter. La bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée. Les gens rejettent ce qui leur est imposé, et c'est idiot parce que la bonne idée, on ne peut plus la ressortir. Si en plus l'idée n'est pas très bonne, comme le CPE, ce n'est pas la peine d'insister. Mais il y a un autre piège à éviter. Donc ça, c'est le piège technocratique. Celui qui sait, il dit « suivez-moi, j'ai raison » et il veut imposer. Il y a l'autre piège, qui est celui que j'ai appelé de la démagogie participative. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on fait débattre des groupes de travail, on appelle ça la démocratie participative dans le meilleur des cas, il y a des gens qui se déclarent « je représente la société civile », j'en ai encore vu hier dans une émission. Bon, ils sont tout seuls en fait. Et puis, enfin, c'est
la société civile, c'est vous, oui. C'est moi, c'est tout le monde, on est tous, c'est nous.
Et voilà. Et donc, ils imposent une certaine vision, il y a une forme de terrorisme, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Par exemple, moi, je n'hésite pas à dire que le principe de précaution, si on le pousse jusqu'au bout, il peut être dangereux. Et que les produits bio, s'ils sont stockés de manière bio, logique, c'est dangereux parce qu'il y a des mycotoxines qui se développent. Il faut le faire savoir, les choses ne sont jamais ni noires ni blanches. Et il n'y a pas le paradis d'un côté et l'enfer de l'autre. Et donc, attention à faire des débats, soi-disant participatifs, où on ne pose pas les vraies questions. Parce que les vraies questions dérangent. Et la vraie question qu'il faut poser, c'est que si on veut que ça change, il faut que chacun d'entre nous change et remette en cause ses propres avantages. La phrase d'Elgozy, je voudrais la citer, « Seuls sont injustes les inégalités dont on ne profite pas ».
Et voilà, on va méditer là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à méditer là-dessus. On va marquer une pause et reprendre ce débat dans un instant. Vous êtes à l'écoute des grands débats de BFM.
Bourse, placement, banque, assurance, immobilier, retraite. Avec BFM et la BPE, Banque Privée Européenne, testez vos connaissances tous les samedis et gagnez 1000 euros en jouant au défi d'initié. Inscrivez-vous sur www.bpe.fr. Le défi d'initié avec la BPE, Banque Privée Européenne, c'est 1000 euros à gagner tous les samedis à 11h45 sur BFM.
BFM, la radio de l'écho.
Et tout de suite, les marchés avec Gaëtan Mélin.
Et le CAC 40 est toujours en baisse, moins 0,5%, 5 583,36 côté devise. Pas de changement, la monnaie européenne vote un instant à $29.20. Le Brent, lui, se négocie à Londres en ce moment à $54.30. Le baril est dans l'actualité des entreprises. À noter que tout est prêt pour l'introduction en bourse de l'Olympique Lyonnais. Le prix de l'action se situera entre 21 et 24,40 € par action. L'offre a débuté ce matin jusqu'au 7 février prochain. La fixation du prix est prévue le 8 février pour une cotation, donc le lendemain. Le quintuple champion de France espère ainsi lever près de 84 millions d'euros, une somme qui lui permettra de financer le développement de la marque OL et la diversification de ses activités. L'OL entend également pérenniser des succès sportifs par des investissements sélectifs. Et puis l'armée américaine choisit Michelin, c'est l'équipementier français qui équipera ses véhicules. Il s'agit d'un très gros contrat qui se monte à près d'1,3 milliard d'euros sur 10 ans. Il y a moins de 15 jours déjà, la ligne produits avions américaine de Michelin Michelin avait donc signé un contrat historique avec le gouvernement Bush. Il se montait alors à près de 542 millions d'euros.
Tous les quarts d'heure, un point sur les marchés boursiers, uniquement sur BFM.
Et tout de suite sur BFM, eh bien vous retrouvez Vincent Géret et ses invités.
BFM, les grands débats du vendredi, Vincent Géret.
La France est-elle enfin prête pour les réformes? Avec nous Henri Pijat, qui a coordonné le dégel français avec un point d'interrogation aux éditions Ilissos. Bernard Spitz, auteur avec Michel Pébreau de C'est possible, voici comment, lettre ouverte à notre prochain président aux éditions Robert Laffont, Michel Godet, le courage du bon sens pour construire l'avenir autrement chez Odile Jacob, et Jacques Darmon, inspecteur des finances, qui a participé à cet ouvrage sur le dégel français. Bernard Spitz, on est déjà dans ce débat sur la question de la méthode. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous en parlez aussi dans ce livre qui contient un certain nombre de propositions. On va y revenir, mais sur cette fameuse méthode, vous adressez à la fin de l'ouvrage une lettre précise au prochain président. Et là, la question de la méthode est capitale.
Alors, elle est capitale dans les détails. Le diable est dans les détails. Et effectivement, comme on l'a dit très justement, la réforme, c'est un métier. Ça demande de la pédagogie, de l'explication, du temps, des précisions, du dialogue. Et ça, c'est un savoir-faire.
C'est
une ingénierie particulière. Mais il y a une méthode qui est, je dirais, préliminaire à toutes les autres. Et c'est le moment de la poser parce qu'on est en plein débat de l'élection présidentielle. Et cette méthode, ça s'appelle la démocratie. La France est dans une situation très particulière. Dans tous les pays d'Europe, quand vous avez des réformes à faire, dans toutes les démocraties parlementaires, au Canada et ailleurs, lorsque vous avez des réformes importantes à faire, vous les mettez sur la table. Vous êtes le chef d'un parti, vous mettez ça sur la table, vous vous faites élire aux élections législatives et à ce moment-là, vous la mettez en place. Parce que vous avez la légitimité de le faire.
C'est ça.
En France, avec le système présidentiel et la façon qu'on a eu de l'appliquer, comme l'a rappelé Henri Pigeat, ça fait 3 élections présidentielles où il n'y a eu aucun mandat politique en matière de réforme.
Le débat a été gâché par différents sujets.
Il a été, voilà, ça a été le nini, c'est-à-dire l'immobilisme. Ensuite, c'était la fracture sociale, ça voulait rien dire. Et pour finir, non à Le Pen, ce qui n'était pas exactement un mandat de réforme économique. On a gâché ces occasions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Souvenons-nous de 95. Le plan Juppé était peut-être, sur le papier, la meilleure synthèse des choses qui étaient à faire dans ce pays. Et vous avez vu que ça a mis la France dans la rue. Pour quelle raison? Parce qu'Alain Juppé n'était pas un bon vendeur. C'est vrai, et ça, c'est déjà un problème de méthode. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est qu'il y avait une élection présidentielle quelques mois plus tôt, que personne n'avait parlé de ça. Et tout d'un coup, on va dire aux gens, bah voilà, tiens, on a oublié de vous dire, et zou, on défile tout un ensemble de réformes qui tombent d'en haut.
Total.
C'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que les réformes aujourd'hui, non seulement, je pense, moi je suis convaincu...
Il faut annoncer la couleur, en quelque sorte.
Ah ben absolument. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui... Affirmer, présenter les réformes n'est pas du tout quelque chose qui peut empêcher l'élection d'un président ou d'une présidente. C'est tout le contraire. Je pense que les Français, parce qu'ils ont compris la situation, seront sensibles au fait qu'on ne leur mente pas. Mais de plus, ce qui est certain, c'est que les réformes qui ne seront pas annoncées avant l'élection présidentielle, dans le cadre de cette élection, ne seront pas appliquées.
Faire.
Et donc, dans ces conditions, on ne l'impasse.
Henri oui, Pigeat.
Je souscris tout à fait à ce que vient de dire notre ami Spitz. Il est clair que le berger doit conduire le troupeau. Pardon de cette comparaison biblique, mais il ne suffit pas d'écouter les sondages, il ne suffit pas d'écouter un certain nombre de leaders. Alors, tout le monde a joué un rôle utile dans cette affaire. Je pense dans la prise de conscience, un certain nombre d'ouvrages sur le déclin et sur d'autres choses, même s'ils ont été critiqués, ont joué un rôle très salutaire. Mais il faut qu'à un certain moment, il y ait, si ce n'est un programme, du moins un objectif. Et là, je crois qu'il faut, je vais profiter de l'occasion, et nous le faisons dans notre livre, pour mettre en garde contre les sondages. Les sondages expriment la sensibilité d'un moment. Et rien d'autre. Ce qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait qu'il y a des impatiences et des volontés de réforme. Sur des points précis, c'est aussi un point que nous développons, je voudrais faire remarquer une chose peu connue, et peut-être ai-je tort de la signaler parce qu'elle se déroule dans une relative discrétion qui fait son succès. Il y a une réforme fondamentale qui est en train de se réaliser au ministère des Finances. Rappelez-vous que le ministère des Finances a été le plus bloqué par les syndicats des impôts et de quelques autres corporations.
Quelques ministres s'en souviennent.
Quelques ministres y ont perdu leur avenir politique. Sévèrement. Or, actuellement, ce qui a été fait est tout à fait fondamental. On est à peu près à un tiers du chemin. Mais sans bruit, la réforme de productivité, d'organisation et de répartition des tâches est tout à fait fondamentale. Je voudrais ajouter, puisque nous essayons de faire quelques comparaisons internationales, que tous les pays d'Europe, sans exception, ont renoncé aux fonctions publiques à statut. C'est-à-dire, le statut, ça veut dire emploi à vie, sans aucune responsabilité, traitement médiocre, mais aucune récompense du résultat. Nous sommes le dernier pays en Europe, je dis bien le dernier, à ne pas avoir osé entrer dans cette logique. Et ça ne signifie pas qu'on a esclavagisé les anciens fonctionnaires des pays voisins, ça signifie simplement qu'on a retenu ce qui était bon dans leur ancien système pour en faire bénéficier tout le monde, mais qu'on les a rendus responsables.
Et en même temps, comme nous le disait Bernard Spitz, ça commence aussi à mûrir de ce côté-là. Mais je voudrais revenir sur la méthode, juste avant la pause, Michel Godet, vous disiez, attention, il y a deux pièges, hein, la réforme qui tombe d'en haut, et puis une certaine forme de dialogue un peu démagogique qui consisterait à n'écouter que ce que les gens disent sans vraiment trancher et arbitrer. Il y a en même temps, quand on parlait tout à l'heure avec Bernard Spitz d'Alain Juppé, même quand on a sur le papier la meilleure réforme, il faut embarquer les Français. Et donc il y a un moment donné où il y a un temps très important d'écoute et de dialogue. Est-ce que ça, on sait faire en France ?
Non, on sait pas bien faire, on fait mal, notamment moi j'avais vu ça dans le débat sur le 3e aéroport, on fait débattre les gens en méconnaissance de cause et on ne donne pas les vraies informations. Parce que c'est bien d'avoir un débat, d'avoir une préparation, une méthode, mais il faut aussi qu'on dise aux gens la vérité sur les vrais chiffres. Or aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, y compris sur la question des retraites. Les gens n'ont pas compris que c'était une chaîne d'argent, Hein, c'est que c'est nos enfants qui paieront les engagements qu'on prend, et que s'il n'y a pas assez d'enfants, ils n'accepteront pas leur imposer de payer plus, rembourser en plus notre dette. Ils n'ont pas compris, ils ont l'impression que j'ai cotisé, j'y ai droit. Donc il y a une pédagogie économique, et les médias ont une part de responsabilité dans cette affaire. Alors, je crois profondément qu'il faut changer aussi de méthode. Il faut cesser de vouloir changer d'en haut. Je crois à la vertu de l'exemplarité et ce que j'appelle la contagion des bonnes pratiques. Les ministres demandent toujours, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Premier ministre pour l'emploi, qu'est-ce que vous faites pour l'emploi? Bon, ben, je leur dis, moi je cesse de faire une réforme du genre 35 heures, tout le monde aligné, qui marche sur le papier, on fait les comptes et les modèles et tout ce que vous voulez. Je regarde ce qui marche, il y a des endroits où le taux de chômage est moins de 5%, comment font-ils, pourquoi pas nous? Et laissons l'expérimentation.
Le benchmark, sur le terrain. On dirait sur BFM. Hein.
Non, oui, le benchmarking, exactement. Et puis surtout le fait qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Laissons les territoires, les régions.
Il n'y a pas une seule réponse, ça
mais
c'est
oui,
très important.
Il n'y a pas qu'une seule réponse. À chacun de trouver la clé qui correspond à ce qu'il est, à son contexte.
La réforme d'en haut et.
Mais mille et une solutions locales.
Et la solution unique n'existe plus.
Et oui, et puis.
C'est ça aussi, ça a progressé dans la méthode. Jacques Darmon voulait dire
oui,
un mot.
Oui, je voudrais souligner que dans cette question de méthode, il faut opposer les deux façons d'approcher. La première, c'est imposer une réforme, comme on vient de le dire à l'instant, c'est-à-dire la définir et dire à chacun ce qu'il doit faire. La seconde approche consiste non pas à indiquer à chaque agent ce qu'il doit faire, mais de le mettre dans une situation, dans un contexte, où naturellement, en défendant ses propres intérêts, il aboutit à la solution que l'on recherche. Et je voudrais simplement donner deux exemples de nature radicalement différente, mais qui sont frappants. Dans le domaine financier où je suis, la réforme est venue de deux hommes politiques de bords très différents, Michel Debré dans les années 60, Pierre Bérégovoy dans les années 80, qui ont tout simplement changé le contexte du marché, changé les instruments financiers, libéré les énergies. Et la réforme s'est faite toute seule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements financiers français, les interlocuteurs de ce domaine sont parmi les meilleurs de la planète. Et il n'a pas été nécessaire de les contraindre
sans bruit,
ou les forcer
et
sans
ça
bruit.
S'est fait.
Ils l'ont fait parce qu'on leur a donné les moyens à eux tout seuls de s'avancer. J'opposerai dans un domaine radicalement différent la méthode du maire de Paris qui consiste à contraindre les automobilistes à ne pas utiliser leur voiture. Il faut mettre les gens
la dans stratégie la stratégie un peu de l'écœurement, on va
absolument,
dire.
Absolument, voilà. Ce sont deux méthodes différentes et l'expérience prouve que la première, non seulement elle réussit mieux, mais surtout elle s'installe dans la durée.
À Londres, ça a marché pour les voitures, excusez-moi.
Michel Godet.
On les a pas forcés, on a mis un
Louis
péage.
C'est un scandale en pleine ville.
Oui, bon. Absolument.
On n'a pas eu le courage de le faire là encore.
Bon, alors on va bien évidemment dans le second temps de l'émission parler du contenu, hein, mais juste un mot à Bernard Spitz, une question à Bernard Spitz dans les quelques secondes qui nous restent avant la pause. On parlait de réformes d'en haut, etc. L'expérimentation aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise assez? La preuve par l'exemple, disait Michel Godet.
Pas assez. D'abord, il y a le fait que tous les autres pays sont exactement dans la même situation que nous. Grosso modo, les contraintes qui pèsent à la France ne sont pas très différentes des autres. La France est un pays qui vieillit, c'est le cas de tous les pays d'Europe. La France est un pays qui est soumis à la mondialisation, aux nouvelles technologies, c'est le cas de tout le monde. Donc, on n'a rien inventé, on a simplement tardé à répondre à ça. Et quand vous parlez d'expérimentation, ça tient au fait qu'on est un pays centralisé. Dans des pays qui sont décentralisés, l'expérimentation, elle vient du terrain. Nous, il faut que ça vienne, il faut des réunions invraisemblables à Paris en interministère pour décider des choses qui n'ont aucune espèce de ça devient surréaliste.
Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant.
Toute l'actualité du vin et des vignerons, les ventes aux enchères, les rencontres avec des personnalités du vin, c'est dans Invino BFM tous les samedis de 10h à 11h avec le bouchon en liège Diam. Diam, la richesse des arômes de tous les vins respectés. Diam, l'utilisation raisonnée du liège garantit sans goût de bouchon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
BFM, la radio de l'écho, partout en France. À Nantes sur 107.2 et à Lyon sur 95.3.
Le premier contrat de l'État a concerné environ l'approvisionnement de 200 millions de pièces.
BFM, à Nice et à Cannes sur 104.4.
Le plus vite sera le mieux, parce que les manœuvres d'obstruction et les grands moulinets, ça ne sert à rien.
Toutes les fréquences de BFM sont sur le 3667, 34 centimes la minute, ou sur radiobfm.com. BFM, la radio de l'écho, où vous voulez, quand vous voulez. BFM, la radio de l'écho.
Un œil sur les marchés avec Gaëtan Mélin.
Et la baisse se poursuit. Le CAC 40 recule à l'instant de 0,5%, 5 583,49. Côté devise, la monnaie européenne vaut à l'instant $29.22. Le Brent, lui, se négocie en ce moment à Londres à $54.36. Le baril, en revanche, tout va bien pour L'Oréal qui affiche encore une hausse de 4,5%, 81,25 €. Les investisseurs saluent son chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes. Ses perspectives pour 2007 sont solides. Merrill Lynch est passé à l'achat sur la valeur. Et puis, belle performance également pour Saint-Gobain en hausse un instant de 5,6% à 73,10€ en marge de la publication d'un chiffre d'affaires 2006 supérieur aux attentes et dépassant le seuil des 40 milliards d'euros. Le groupe de matériaux et accessoires de construction a dit s'attendre à une croissance de son résultat opérationnel comprise entre 5 et 6% en 2007. Les actionnaires peuvent également se réjouir. Le dividende devrait progresser de 25% pour 2006. Goldman Sachs a réitéré son conseil d'achat et porte son objectif désormais de 62 à 73€. Belle séance également pour IMS, plus 3,8%, 23,30€. Le groupe spécialisé dans la distribution d'aciers spéciaux a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires en progression de plus de 21%, dépassant ses propres prévisions. Quant à Beneteau, il affiche actuellement une hausse de 1,1%, 88,65€. Le constructeur français de bateaux de plaisance anticipe pour son exercice 2006-2007 une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires. À noter également la déception là, côté Casino Guichard qui recule de 0,2% à 66,60€. Casino Guichard qui a dégagé un chiffre d'affaires en 2006 en hausse de 9,9%. Son activité au quatrième trimestre est particulièrement décevante. Elle est plombée par son enseigne à bas prix, Leader Price. Les investisseurs lui préfèrent d'ailleurs aujourd'hui le titre Carrefour. Carrefour qui affiche une forte hausse aujourd'hui, plus 2,7%, 44,12€ à l'instant.
Cotation, valeur, variation en temps réel, 36,67, le numéro boursier de BFM, 34 centimes la minute.
L'essentiel de l'info avec Grégoire Favet.
Point d'orgue d'une semaine d'hommage. Les funérailles de l'abbé Pierre se déroulent en ce moment. La cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence de Jacques Chirac et de nombreux ministres et personnalités. Hier soir, 2 à 3 000 personnes se sont retrouvées au palais Omnisports de Paris-Bercy pour célébrer la mémoire du fondateur des Compagnons d'Emmaüs. La polémique continue autour d'une éventuelle implication des renseignements généraux dans la campagne présidentielle. Ségolène Royal, en déplacement aux Antilles, accuse à demi-mot Nicolas Sarkozy d'appartenir à un système clanique. Daniel Vaillant estime, lui, que le ministre de l'Intérieur est forcément au courant de l'enquête DRG sur Bruno Rebelle, désormais conseiller de Ségolène Royal. Quant à Antoine Royal, un des frères de la candidate socialiste, il affirme lui aussi avoir fait l'objet d'investigations de la part de ce service de police. Attentat suicide à Islamabad, au Pakistan. Ce matin, un kamikaze s'est fait exploser devant l'hôtel Marriott, principalement fréquenté par les étrangers. On compte pour l'instant au moins 2 morts. L'Iran part à la conquête de l'espace. D'après la presse américaine, la République islamique est sur le point de lancer un satellite. Des experts du renseignement estiment que ce projet d'une avancée technologique supérieure met en lumière les liens entre Téhéran et la Corée du Nord dans ce domaine. Enfin, un mot de tennis, c'est le Chilien Fernando González qui vient de se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie. Il s'est débarrassé en 3-7 de l'Allemand Tomias.
Vous êtes à l'écoute de BFM, il est 11h30. Et on poursuit avec vous Grégoire, avec le journal de l'économie.
L'Olympique Lyonnais n'est plus seulement un club de foot, c'est une marque en devenir. Le holding OL Group a initié ce matin son processus d'introduction en bourse. L'offre sera donc ouverte à 17h ce soir et doit permettre de lever près de 84 millions d'euros. La fourchette est fixée de 21,24€ par action. Le prêt définitif sera connu le 8 février. Gaz Natural examine la possibilité d'un rapprochement avec Suez pour racheter Endesa. Information de la presse espagnole ce matin selon laquelle un nouveau scénario est à l'étude. Le gazier réfléchit en effet à une éventuelle prise de participation de Suez à son capital afin de renforcer son offre sur son compatriote électricien. Le groupe français dément de nouveau ce matin préparer une quelconque opération en ce sens. Résultat record chez Saint-Gobain, plus d'€1,7 milliard de bénéfices en 2006. C'est 32% de mieux que l'année précédente, tout un symbole, alors que Jean-Louis Beffa, l'emblématique patron du groupe, va quitter ses fonctions au mois de juin prochain pour laisser la place à Pierre-André de Chalandard, Jérôme Libeskine.
Quand il arrive il y a 20 ans à la tête de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa a une vision du business. Le client va prendre le pas sur le producteur, il faut donc aller à sa rencontre. Du coup, en 2 décennies, le groupe a vendu 900 sociétés et il en a racheté 1200. Exit le BTP, le papier bois et la mécanique et cap sur les matériaux de haute performance et surtout sur la distribution. Parce que le vrai premier virage, il a eu lieu en 96 quand Saint-Gobain a racheté les magasins La Paire et Point P. 10 ans après, cette activité représente 40% du chiffre d'affaires. L'autre fierté de Jean-Louis Beffa, c'est le rachat il y a 2 ans de BPB, le leader mondial du plâtre. Il lui a permis de parachever sa stratégie et de faire de Saint-Gobain un groupe global capable de répondre à toutes les demandes de son secteur. Une réussite que son successeur va devoir prolonger et il a déjà une mission, faire en sorte que le chiffre d'affaires dépasse les 40 milliards d'euros. d'euros dès cette année.
Avancée stratégique pour Vinci, le groupe de construction vient de racheter les 80% de Soletanche qu'il ne détenait pas encore. L'entreprise est un des leaders mondiaux des fondations spéciales et du traitement des sols. Elle est implantée dans 50 pays et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Londres met la pression sur EADS. Le ministre britannique de la Défense menace de revoir sa politique d'achat de matériel militaire auprès du consortium si Airbus ne fait pas fabriquer les ailes de ses prochains avions au Royaume-Uni. Cette partie de la production pourrait en effet être transférée vers l'Allemagne ou l'Espagne. 3 hôtels et un casino à Macao, c'est le nouveau projet du milliardaire Richard Branson. Son groupe, Virgin, est en négociation avancée pour construire ce complexe sur 20 hectares dans la capitale chinoise du jeu. Le coût du projet est estimé à 3 milliards de dollars. Le chantier pourrait être achevé d'ici 3 ans. 11h33, vous êtes sur BFM.
BFM, un journal de l'économie, toutes les demi-heures.
Et tout de suite, c'est la dernière ligne droite des grands débats du vendredi avec Vincent Giray et ses invités.
BFM, les grands débats du vendredi, Vincent Giray.
La France est-elle enfin prête pour les réformes ? Nous reprenons notre débat avec Michel Godet, démographe, auteur du Courage et du Bon Sens pour construire l'avenir autrement, chez Odile Jacob. Bernard Spitz, qui avait publié il y a quelques mois le papy crack, eh bien récidive, si j'allais dire, avec Michel Pébreau, il signe « C'est possible ». Voici comment, lettre ouverte à notre prochain président chez Robert Laffont, Henri Pija, directeur de la lettre Ilissos et président du CFJ, et il a coordonné l'ouvrage « Le dégel français ». Auquel a participé Jacques Darmon, inspecteur des finances, président de banque, qui est avec nous également. On va revenir sur les questions de fond, mais juste une dernière question sur la méthode, messieurs. Il y a une idée qui court beaucoup dans le débat public en ce moment, dans le débat politique, c'est l'idée, Michel Godet, de rendre obligatoire l'adhésion à un syndicat. Finalement, d'avoir des syndicats enfin représentatifs, des instances structurées de dialogue pour faire avancer, dialoguer et réformer. C'est bien ça ou pas?
Ah ben, attendez, il y a une question de modalité, il ne faut pas la rendre nécessairement obligatoire, c'est comme pour le vote des citoyens. Simplement, ceux qui vont voter ou ceux qui votent à un syndicat, il faut leur donner une espèce de réduction d'impôt qui les incite à, puisqu'on donne une prime à la citoyenneté en quelque sorte. Et ceux qui ne veulent pas voter ou ceux qui ne veulent pas adhérer à un syndicat n'adhèrent pas. Simplement, je voudrais évoquer une chose, c'est que les syndicats aujourd'hui dans ce pays, alors là je rejoins ce que disait Bernard Pitz, ont formidablement évolué, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une base beaucoup trop faible et que forcément ils défendaient les intérêts de leurs mandants. Donc s'ils voulaient évoluer, il fallait qu'ils élargissent leur base et qu'ils soient beaucoup plus représentatifs et qu'ils s'ouvrent même à d'autres syndicats.
Bernard Spitz.
Oui, il faut effectivement encourager tout ce qui peut être fait, mais pas de rendre les choses obligatoires. Puis le terme même est,
pas obligatoire.
Est en soi.
Oui, j'ai pas dit obligatoire.
C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit, je vous mets d'accord, c'est moi qui l'ai dit.
Vous parliez des médias.
Incitatif.
Vous parliez des médias, les raccourcis qu'on utilise dans la façon de parler de ça, effectivement fait que l'idée qui circule, c'est l'obligation. Donc certainement pas d'obligation, les incitations multiples, mais ce qui est vrai, et ça revient à la méthode, il n'y a pas là où les réformes ont marché, c'est quand il y avait des syndicats suffisamment puissants pour être des interlocuteurs
crédibles
et être capables d'engager les choses. Aujourd'hui, vous avez vu que dans l'éducation nationale, il y a un syndicat qui avait essayé de faire un peu vaguement des efforts, il est mort. Il est mort parce que la démagogie l'a emporté. La CFDT, qui a été le syndicat le plus ouvert et qui a eu l'intelligence sur la question des retraites et d'autres, a failli, a payé cher ses engagements. Donc, dans les pays où ça marche, regardez ce qui s'est passé en Italie. On disait tout à l'heure, tous les autres pays européens ont évolué. L'Italie a supprimé le statut de la fonction publique avec le soutien des syndicats, parce qu'ils voyaient bien tout ce que ça avait de rétrograde. Et le plus drôle, si on peut dire, parce que ça, c'est une chose qui n'est pas connue, c'est que quand Berlusconi est revenu, et c'est la gauche qui a fait ça, la gauche avec le soutien des syndicats, le gouvernement Prodi, la première mouture. Et quand Berlusconi est venu, il a voulu rétablir les statuts.
Parce que on est totalement à front renversé.
Il a voulu les rétablir parce que ça réintroduisait des notions de clientélisme qui étaient dans sa logique. Eh bien, qui l'a empêché? Les syndicats. C'est les syndicats italiens qui ont empêché le rétablissement des statuts.
J'allais dire, ça fait rêver Henri Pija.
Oui, ce genre de réforme n'a de sens que si elle est liée au dialogue social, c'est-à-dire au niveau de négociation. Un des problèmes de fond dans ce pays, c'est qu'il y a une confusion totale entre ce qui se négocie au niveau national, au niveau des branches et au niveau des entreprises. Et il ne servirait pas à grand-chose de renforcer les syndicats à l'échelon national, ça resterait abstrait, si on ne revoit pas les modalités du dialogue social. Alors c'est particulièrement vrai dans le secteur public. Beaucoup de réformes seraient possibles si on décentralisait, c'est l'histoire de l'expérimentation qu'on évoquait, mais c'est vrai aussi dans beaucoup de secteurs industriels et commerciaux.
Un mot là-dessus, Jacques Darmon ?
Oui, je veux
le regard de l'homme de l'entreprise.
Revenir sur ce problème de l'expérimentation, la décentralisation. C'est par définition une bonne voie, une bonne solution. L'expérience étrangère le montre largement. Encore faut-il que le support de cette expérimentation et cette décentralisation soient eux-mêmes cohérents. Une des grandes difficultés en France, c'est qu'on ne sait pas sur qui décentraliser et sur qui déconcentrer. La décentralisation qui a été faite vers les communes et les départements a échoué parce que le secteur, l'organisation territoriale française est catastrophique.
Trop de niveaux.
Décentralisé sur 38 000 communes, sur 4 niveaux d'administration, ça ne donne que de mauvais résultats. Sur l'éducation nationale, le problème est la même chose. Si on devait décentraliser aujourd'hui sur les universités telles qu'elles sont constituées, par leur nombre et par leur mode de gouvernance, ça serait une franche catastrophe. Alors, il faut d'abord créer les interlocuteurs responsables et cohérents avant de leur donner davantage de pouvoir.
Jacques Darmon, vous faites la transition, elle est toute trouvée. Nous parlons de l'école, si vous voulez bien. C'est un sujet qui est présent dans chacun de vos livres. Bernard Spitz nous disait, c'est un sujet sur lequel maintenant... c'est mûr, on le voit à travers des sondages. Michel Godet, dans votre bouquin aussi, il y a sur l'école, l'université, des longs passages avec un certain nombre de questions. On sait aujourd'hui ce qu'il faut faire ?
On sait ce qu'il faut faire en matière éducative. On sait très bien que tout monopole est un facteur de sclérose. Et là où les résultats scolaires sont les meilleurs en France, c'est en Bretagne, parce que c'est là que le gradient de concurrence entre l'enseignement privé et l'enseignement public, dans le cadre des règles du jeu du service public, est le plus élevé. Donc une émulation, plus grande autonomie aussi.
C'est ce qui explique, selon vous, les meilleurs résultats.
Ah ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Lang, donc on peut le répéter, c'est politiquement correct. Mais bien sûr. Mais tout le monde le sait très bien. C'est pas parce que les Bretons sont plus intelligents, ça se saurait. Et je vous propose aussi qu'il faut adapter l'école un peu plus au monde de la réalité. On va pas le faire en envoyant les enseignants faire des stages. Je crois que le plus simple, ce serait que pour toutes les matières qui sont par exemple la comptabilité et l'anglais, hein, on continue à apprendre pendant 7 ans l'anglais et bien souvent à l'annonner à la sortie. Bon, eh bien, on pourrait avoir des professeurs associés dans les collèges et les lycées, parce qu'au moins, si on a quelqu'un qui a 45 ou 50 ans, si on s'est trompé, on n'en aura pas pour longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on prend des profs qui ne sont jamais sortis de l'école, qui sont censés préparer les enfants à changer plusieurs fois de métier au cours de leur vie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la bonne nouvelle avec la démographie, c'est qu'il y aura un retournement. C'est-à-dire que les jeunes vont rentrer plus tôt sur le marché du travail. Les entreprises vont leur dire, vous voulez un diplôme pour un emploi ? Moi, je vous donne l'emploi, vous aurez le diplôme en validation des acquis d'expérience. Et c'est tant mieux parce que le taux de chômage aujourd'hui des bac plus 4 est supérieur de 2 points à celui des bac plus 2. On a été trop loin, pas assez de formation professionnelle. Donc, il y a des ouvertures. Il suffit de copier les modèles qui marchent déjà chez nous.
Bernard Spitz.
Oui, Michel Godet, j'aimerais être aussi optimiste que vous là-dessus. Mais si on ne fait pas les réformes nécessaires, on n'y arrivera pas. La démographie, ça ne règle rien. Quelqu'un qui n'est pas qualifié, quelqu'un qui n'a pas la formation qui est adaptée au marché du travail, ne trouvera pas plus de jobs aujourd'hui.
Mais c'est quoi la qualification aujourd'hui ? On manque plus de jardiniers que d'informaticiens ? Donc le problème, il est de revoir complètement la professionnalisation des enseignements ?
Absolument. Il est de rétablir un lien entre la réalité du marché du travail, qu'elle soit celle des jardiniers ou des informaticiens, et celle de l'enseignement supérieur. Parce qu'on parle d'école. Attention, distinguons les choses. Il y a l'école et puis il y a l'enseignement supérieur. La France est le pays qui dépense le plus par étudiant, par enfant dans le secondaire. Donc on ne peut pas dire que de ce côté-là, on
dépense plus pour un lycéen que pour un collégien que pour un universitaire, un étudiant.
Donc, dire qu'il y a 38 heures de boulot, donc ça coûte cher.
Donc le problème qui se pose par rapport à la formation dans le secondaire, c'est pas un problème de qualité, c'est un problème, disons, d'efficacité dans la gestion des moyens. Mais toute la situation est complètement différente dans l'enseignement supérieur, qui est clochardisé. Je vous rappelle juste ce chiffre.
Ça, vous êtes d'accord, hein, vous êtes tous d'accord là-dessus, je crois.
On dépense par étudiant dans l'une des meilleures facs de France, qui est Orsay, en gros un peu plus de 4 000 euros par étudiant. Dans une grande école comme Polytechnique, c'est 12 000. Prenez une grande université américaine comme le MIT, c'est 120 000. 10 fois plus que Polytechnique, 30 fois plus qu'Orsay. Comment voulez-vous, dans ces conditions, offrir durablement une égalité des chances entre les étudiants français et ceux des autres pays? C'est une question de choix de société. En France, on a fait le choix de clochardiser la société. On s'est endetté depuis 25 ans. Pourquoi faire? Pour construire des logements pour les étudiants? Pour faire des universités? Pas du tout. Pour payer les dépenses de santé. On a absolument nié. On a absolument tenu aucun compte de l'avenir. Et aujourd'hui, les jeunes, à part une petite minorité qui arrive par son talent ou par la chance, à bien être sur les bonnes voies, on a à la fois 160 000 jeunes par génération qui sont laissés sur le carreau et une partie substantielle qui est formée dans des formations qui sont des voies de garage et qui ont fait des diplômés chômeurs. Ou alors des gens, gens qui sont obligés d'accepter une déqualification. Et c'est ça qui est le problème en France. Et c'est ça aussi que les étudiants ont fait entendre au moment du CPE. C'était pas simplement le CPE, c'était leur malaise et leur angoisse face à une société qui les sacrifie parce qu'elle a choisi le court terme et qu'elle les a délibérément mis à l'écart.
Henri Pigat, et puis après je vous demanderai pourquoi ça peut changer aujourd'hui.
Alors, si Bernard Spitz le permet, je voudrais souligner qu'il y a une parfaite homothétie entre le financement des différents degrés d'enseignement et la puissance syndicale. Si l'enseignement secondaire est mieux servi que l'enseignement supérieur...
C'est parce que les syndicats sont plus puissants, voilà, on le sait.
Mais je referme cette petite remarque. Je crois que pour répondre à votre question sur la réforme, il faut distinguer selon les niveaux. Curieusement, c'est, et peut-être parce que c'est en effet le secteur clochardisé, c'est dans l'enseignement supérieur que les choses sont le plus prêtes à bouger. Les regroupements,
c'est par là qu'on peut commencer.
Absolument. Et les regroupements que vous évoquiez à l'instant, ils sont en cours, car la loi Savary le permet, pas très bien avec des bricolages, mais on y arrive. Et actuellement, il y a des regroupements en cours. Il faudrait distinguer à l'intérieur de l'enseignement supérieur entre les matières scientifiques et techniques, qui, elles, sont stimulées par la concurrence, par les exemples étrangers, et les sciences humaines, où, comme Bernard l'a dit, on a fait un contresens depuis 30 ans sur l'orientation et les débouchés. On fabrique des chômeurs en sciences humaines. C'est triste à dire, mais les sciences humaines dans l'université étaient faites pour l'enseignement et on a inventé des pseudo-métiers qui, pour la plupart, n'existent pas. Pour l'enseignement secondaire...
Sur ce sujet-là, on a l'impression quand même que c'est une question de réglage et que ça doit être assez facile,
oui,
à faire.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'on refuse la sélection à l'université.
Exactement.
On refuse de professionnaliser les filières.
Et elle va arriver par la force des choses. Mais
parce
si
qu'on
on...
a anticipé qu'on n'a pas les bonnes formations,
voilà,
adaptées.
Si on raisonne par rapport aux probabilités, c'est ça. Enseignement supérieur scientifique et technique, ensuite l'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il y a un vrai problème de qualification professionnelle des professeurs. Le désastre des IUFM et toutes les hésitations depuis 20 ans ont des conséquences catastrophiques. Donc, nous avons à la fois les exemples les plus édifiants en matière de pédagogie dans l'enseignement secondaire et les exemples les plus catastrophiques. Donc là, il y a vraiment une réforme de fond qui passe par des décisions réglementaires et qui va prendre du temps parce qu'il faut changer la formation des gens.
Allez, on marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant.
BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. C'est vous qui avez choisi le vainqueur de l'édition 2006.
Le meilleur patron de la BFM Academy 2006
Monsieur David Loury.
David Loury, Cobalt Craft Industries.
Merci beaucoup à vous tous. Et donc un grand merci, ça fait chaud au cœur de voir l'ensemble des personnes qui sont mobilisées pour voter pour nous.
En 2007, ils reviendront. Inscrivez-vous sur radiobfm.com pour participer au premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. BFM Academy 2007, bientôt sur BFM.
Hey, on joue à l'épreuve ?
Je sais pas, c'est quoi ?
Bah, c'est comme au ballon prisonnier, sauf que quand t'es touché, t'as plus le droit de rejouer.
Plus jamais ?
Bah non, t'es exclu, t'existes plus, t'es un lépreux quoi.
C'est nul ton jeu.
Aidez-nous à faire une place aux lépreux dans la communauté des hommes. Les 27 et 28 janvier, la journée mondiale des lépreux est l'occasion de soutenir la Fondation Raoul Follereau. Vous aussi, faites un geste d'amour. Donnez. Fondation Raoul Follereau, boîte postale 79 75 015, Paris.
BFM, la radio de l'écho.
Et tout de suite, les marchés avec Gaëtan Mélin.
Et le CAC 40 est toujours en baisse, moins 0,5% à l'instant, 5582,33. Côté devise, la monnaie européenne vote 1,2916 et le Brent puisse se négocier à Londres à 54,33 le baril. Sur le SRD, la plus forte baisse revient à Nexity, moins 2%, 59,55 €. Rallye est en repli de 1,9%, 40,52 €. Adeco en repli de 1,8%, 48,63 € à l'instant. Steria est en baisse de 1,6% à 46,98 € et Alcatel Au Centre recule encore de 1,5% à 9,94 €. Parmi les hausses à présent, toujours sur le SRD, bien sûr, on retrouve Saint-Gobain, plus 5,3% à 72,95 €. Business Object est en hausse de 4,1% à 29,25 €. L'Oréal, plus 4%, 80,85 €. Infogram, plus 3,3% à 31 €. Carrefour, plus 2,7% à 44,11 €. Et Pernod Ricard, plus 2% à 161,10 € à l'instant.
Un point bourse tous les quarts d'heure, c'est uniquement sur BFM.
Et tout de suite sur BFM, eh bien vous retrouvez Vincent Giret et ses invités.
BFM, les grands débats du vendredi, Vincent Giret.
La France est-elle enfin prête pour les réformes ? C'est le dernier temps de notre débat avec Henri Pijat, Bernard Spitz, Jacques Darmon, Michel Godet. Nous parlions juste avant la pause de la possibilité de simplement de réintroduire un peu de sélection à l'université. Bernard Spitz, pourquoi c'est possible aujourd'hui ? Ça passera comme une lettre à la poste, ça serait accepté globalement parce que c'est le bon sens, parce qu'on ne peut pas continuer à envoyer des milliers de jeunes dans des voies de garage ?
comme on vient de le dire, si on arrive comme ça en disant tout d'un coup on va introduire la sélection, non, ça passera pas du tout comme une lettre à la poste. D'ailleurs, ce serait une erreur de s'y prendre comme ça. Ça veut dire quoi la sélection ? Ça veut dire qu'il faut d'abord que les voies qui soient offertes soient correspondent au marché du travail. Si vous avez comme voie offerte 20% des formations qui le sont et 80% qui ne le sont pas, ça veut dire quoi la sélection ? Il faut permettre de laisser des choix qui soient des choix réels en amont, et donc ça ne s'improvise pas. Ensuite,
c'est la grande question de l'orientation en fait.
Oui, c'est la grande question de la formation des enseignants, de l'autonomie des universités, de la capacité qu'elles ont à avoir une politique indépendante en matière de gestion, de gouvernance, et puis donc de l'offre qui est faite en matière d'enseignement. Mais la sélection, ça ne doit pas être une sélection par l'argent, qui évidemment, et c'est ça l'idée qui immédiatement donnerait le sentiment, c'est une sélection par le talent, c'est la sélection républicaine, et c'est aussi la sélection par le contrôle des connaissances. En pratique, elle existe. On sait bien qu'il y a des facs qui pratiquent cette sélection. Alors, on ne le dit pas, mais on avance progressivement.
Oui, ce qui fait que le taux d'échec est extrêmement fort à l'université. Les jeunes sortent de l'université.
Quand on regarde les catégories sociales qui progressent, qui sont les grandes écoles ou dans les meilleures universités, les plus professionnels, c'est ceux qui ont l'information, qui ont la connaissance.
Absolument. Et les parents qui les aident. Mais comment fait-on pour ça ? Comment empêche-t-on ça ? Eh bien, tout simplement par le fait qu'il y ait des bourses de façon massive. Oui. Or, pourquoi n'y a-t-il pas de bourses de façon massive ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. On fait de l'espèce de... On atomise, on fait des petites aides ici et là, mais on n'a pas une politique cohérente. De toute façon, l'université étant clochardisée et l'État étant dans la situation de dette dans laquelle il est, n'ayant anticipé rien, l'université, comme d'ailleurs beaucoup de domaines qui touchent les jeunes, sont des variables d'ajustement. On leur donne ce qui reste. Et comme il ne reste rien, on leur donne
rien.
Donc
là, il faut redéfinir les priorités.
On distribue des assignats universitaires. Aujourd'hui, il y a des endroits où on donne des maîtrises qui valent rien.
Michel Godet, je voudrais donner la parole à Jacques Darmon qui la demande depuis un certain temps.
Oui, parce que pourquoi ne pas appliquer à cette question de l'éducation nationale supérieure ce que nous avons dit jusqu'à présent sur l'expérimentation et la décentralisation ? Pourquoi tenter de définir ce qui est à faire, soit dans cette tribune, soit même au Conseil des ministres ? Après tout, s'il y avait des universités de taille convenable, suffisante, regroupée, avec une gouvernance adéquate, c'est-à-dire un conseil d'administration, un président d'université ayant des fonctions, eh bien ces 5, 10, 15, 20 universités françaises définiraient elles-mêmes ce qu'elles ont à faire, et étant en concurrence les unes avec les autres, elles aboutiraient inévitablement à une bonne solution.
Qu'est-ce qui les empêche de faire ça aujourd'hui ? Les présidents d'université sont prêts à faire ça ?
Aujourd'hui, il y a trop d'universités, et la gouvernance, le conseil d'administration d'une université ne permet pas de prendre des décisions.
On a expérimenté, Michel Godet. Rappelez-vous l'UTC de Compiègne, l'université de technologie de Compiègne. On en a fait vaguement une deuxième du côté de Belfort. Et puis c'est tout, on a limité. C'est-à-dire qu'on fait une expérimentation, mais on la bride dès le départ. Donc c'est ça qu'il faut, il faut libérer les initiatives. Moi, je trouve un peu dommage qu'on ne parle que de l'enseignement supérieur. Parce que le vrai problème de ce pays pour l'avenir, c'est qu'on a en 6e 15 à 20% des enfants qui rentrent, qui ne savent pas lire, écrire et compter. Et qui ensuite sont des victimes de l'échec scolaire. Ça les a marqués.
C'est les 160 000 jeunes qui sortent, dont parlait Bernard Spitz tout à l'heure.
C'est là qu'il faut voir quand on parle du chômage des jeunes en disant c'est une société. Non, c'est dès le CP qu'on repère les enfants qui sont en difficulté. Et on attend qu'ils soient à la fin de la 3e pour se rendre compte qu'ils sont même pas employables.
Pourtant, là, il y a des moyens.
Ça me semble encore plus grave. Parce qu'effectivement, il y a les frustrés, les aigris, des courses au diplôme. Mais finalement, un licencié esthète, on pourrait lui faire faire un CAP de fleuriste. Il mettra de la poésie dans les bouquets. Tout n'est pas perdu à condition qu'il ait pris conscience que la formation générale, d'abord, on peut être, rappelez-vous, bachelard. Hein, avant d'être philosophe, il était facteur. Donc, on peut permettre à tous les facteurs de faire de la philosophie. Mais faire de la philosophie n'a pas nécessairement droit à un métier et à un statut dans la société. Donc là, il y a le rôle du diplôme dans la société qu'il faut reconsidérer. Moi, je suis contre l'apartheid par le diplôme. Je suis pour qu'on supprime toutes les références conventionnelles à l'âge et au diplôme dans les concours. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de technicien de surface pour bien tenir un balai. Bon, eh bien c'est pareil pour l'ensemble des métiers, sauf des métiers à risque comme la chirurgie ou pilote d'avion, où on vérifie d'ailleurs les compétences régulièrement. Non, libérons un petit peu, posons-nous la question de l'efficacité de notre système scolaire. On a augmenté de 20% le budget de l'éducation nationale dans les 5 ou 7 dernières années, et alors que les effectifs baissaient de 10%. On sait maintenant qu'un bon prof faut donner le maximum d'élèves et un mauvais prof pas d'élèves du tout. Absolument. C'est ça, c'est les critères de qualité qu'il faut introduire.
Bernard Spitz, c'est d'accord. Henri Pigeat.
Oui, il y a des universités qui avancent, qui bougent, qui réforment. Elles sont obligées de le faire en utilisant le système D. Il y a dans notre livre un témoignage de Yannick Vallée, président de l'université Charles Fourier à Grenoble, qui a été le premier vice-président de la conférence des présidents de l'université jusqu'en décembre. Un des garçons les plus dynamiques.
On a beaucoup vu pendant le CPE.
Bon. Et par hasard, c'est un des hommes les plus dynamiques dans l'université française. Il réalise des prouesses dans son université. Et je le cite parce qu'on le connaît, mais il n'est pas seul. Mais il faut biaiser. Il faut passer presque à côté de la loi, inventer des systèmes, problèmes d'associations, de sociétés bidons, etc. C'est la preuve qu'actuellement, le mouvement est freiné par le système réglementaire et par une tutelle étroite et absurde exercée par des bureaux ministériels qui n'ont aucune compétence, aucun sens de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Pour comprendre ce qui se passe, il faut aller dans les universités, partout, à Paris, dans la périphérie, en province. Le mouvement est engagé. Il suffirait d'un rien, surtout pas une grande loi, mais lever 2 ou 3 verrous et le mouvement
s'est installé. Est-ce qu'on peut envisager sur un sujet comme celui-ci que la gauche et la droite, c'est difficile dans ce pays, mais soient à peu près d'accord sur l'essentiel de ce qu'il faut faire?
Je l'espère, parce que c'est quelque chose qui dépasse la gauche et la droite. C'est quelque chose qui doit assurer l'avenir de ce pays. Donc, on l'a bien vu qu'en Angleterre, des réformes ont été menées en ce sens. Tony Blair les a faites passer avec une partie de soutien du Parti conservateur, parce qu'il y avait l'extrême gauche de son parti qui continuait à vivre dans le monde abstrait. Mais ce que dit Ripija est important et doit être élargi ailleurs que pour les sujets d'enseignement à l'université. Aujourd'hui, le risque qui nous menace, c'est le décalage entre le monde réel, c'est-à-dire la vie telle qu'elle est, comme les gens la connaissent, la façon dont les gens engagent dans les entreprises, la façon dont les entrepreneurs essayent de se développer, tout ce qui fait partie de la réalité de leur quotidien, et le décalage qu'il peut y avoir avec certaines parties, pas toutes, hein, il ne faut pas non plus caricaturer, mais avec certaines parties de la sphère publique qui, elles, n'ont aucune espèce de sens de ça. Et donc, on invente des règlements et qui sont destinés à des gens qui savent jouer avec toute cette espèce d'abstraction, mais on bride l'initiative et on empêche et on insécurise l'initiative. Ce qui est encore plus grave.
Un tout petit mot de Michel Godet.
Juste un mot, il n'y a pas une gauche malheureusement dans ce pays, ni une droite. Il y a des gauches et des droites. Il y a quand même une gauche réformiste, hein, et il y a une droite aussi qui est complètement réactionnaire. Donc il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a coupé la France en deux. Il y a un problème de mode de gouvernance. Le système des élections pousse à cette espèce de coupure. Donc il faut, je crois, donner les exemples. Moi, je trouve ce qu'il a dit tout à fait juste. Il ne faut pas grand-chose entre un bateau qui coule et un bateau qui flotte. Hein, j'ai vu ça dans les entreprises.
Ce qu'a dit Henri Pigeat.
Oui.
Un demi-mot d'Henri Pigeat.
Un quart de mot. Il y a actuellement une dépolitisation de la gouvernance des universités. Il y a encore 10 ans, les présidents d'universités ou leurs bureaux ou leurs conseils se déterminaient par rapport à des clivages politiques. Aujourd'hui, j'en connais un certain nombre, je suis incapable de dire s'ils sont à droite, à gauche ou ailleurs.
Et on va se dire que c'est une bonne nouvelle. Merci, merci à vous, je renvoie sur vos ouvrages respectifs, Henri Pigeat et Jacques Darmon, le Dégel français édition Illisos. Bernard Spitz, qui avait donc publié Le Papycrac, signe cette fois C'est possible, voici comment. Lettre ouverte à notre prochain président avec Michel Pébroche et Robert Laffont. Et Michel Godet, le courage du bon sens pour construire l'avenir autrement. Chez Odile Jacob, merci messieurs, c'était passionnant. J'aurai grand plaisir à vous retrouver vendredi prochain.